À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question d'un autre jésuite comme la semaine dernière. Nous avions parlé de François Bressani, mais cette fois-ci, c'est Gabriel Marais, un prêtre qui n'a pas été torturé. Non, non, n'ayez pas peur. C'est un missionnaire jésuite, encore une fois, qui est mort en 1714 en Nouvelle-France, mais dans l'Illinois, puisque la Nouvelle-France se rendait à cette époque, approximativement encore, là, jusqu'au golfe du Mexique. Il y avait des missionnaires jésuites, là, chez les Illinois, et le long du Mississippi. Il a été missionnaire là, mais auparavant, il est monté à la baie du Tusson, en arrivant à Québec. Il est monté à la baie du Tusson avec Pierre Lemoine d'Iberville, l'un des plus grands héros de notre histoire, qui est mort très jeune, dans la quarantaine, lui, à la Havane. Le père Gabriel Marais, ça s'appelle M-A-R-E-S-T, mais on peut l'appeler différemment, comme Jean Marais, M-A-R-A-I-S. Et il a laissé des écrits importants, comme la plupart des jésuites de son temps. Des écrits que l'on retrouve dans un ouvrage fort intéressant, paru aux éditions de La Différence, et distribué ici à Montréal, on peut le retrouver. Ce sont des lettres édifiantes et curieuses des jésuites français en Amérique au 18e siècle. C'est une réédition d'un ouvrage paru au début du 19e siècle sous le titre de « C'est ce qu'il faut chercher, si vous voulez le livre, peau rouge et robe noire ». Un ouvrage fascinant parce qu'on y a rassemblé de nombreux écrits extrêmement intéressants de ces jésuites, souvent inconnus, comme le père Gabriel Marais. Ces écrits passionnaient non seulement un public qui n'avait pas grand-chose à faire parfois en France, ils étaient nobles ou riches, mais ils étaient avides d'exotisme. Alors on y retrouve parmi ces gens qui lisaient les lettres édifiantes et curieuses des jésuites français en Amérique au 18e siècle, on retrouvait Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau et plus tard Bernardin Saint-Pierre et Chateaubriand. Et ces gens-là lisaient ça à la plume à la main. Ils prenaient des notes parce que ça faisait vivre sur fond de des forêts primitives, là, un personnage comme le père Gabriel Marais, un personnage fascinant. Quelqu'un qui incarnait, au fond, un dévouement absolu aux autres, particulièrement à ceux qu'on appelait les peaux rouges ou les sauvages, ou l'Américain même, on les appelait comme ça aussi, donc nos frères amérindiens. Pendant la première moitié du siècle, du 18e siècle, l'Amérique septentrionale peut paraître française. Ou en voie de le devenir à ce temps-là. Hein? Il y en a été question un peu récemment dans des émissions. Alors que les colonies britanniques de la Nouvelle-Angleterre n'occupent qu'une bande le long de l'Atlantique, là, la Nouvelle-France, Saint-Domingue et la Louisiane forment un immense empire qui se déploie de la baie du Tusson, dont il va être question aujourd'hui, au golfe du Mexique et même plus au sud, entre le Maroni et l'Amazone. C'est un empire français chimérique, ça, en fait. Parce que nous étions pas bien nombreux, faute d'hommes, l'occupation était plutôt précaire, hein? On dit même, dans certains textes, qu'elle était sporadique. Elle est en beaucoup d'endroits, et puis c'est une remise en cause constante de cette occupation française par les incursions anglaises, les razzias des tribus indiennes ennemies, comme les Iroquois, que les Européens, tant les Anglais que les Hollandais, ont su apprivoiser pour en faire des commandos. À la longue, cette faiblesse démographique de nos ancêtres ici, face à l'essor anglo-américain, ça va entraîner la perte des possessions françaises, puis au traité de Paris en 1763, après la défaite de Montcalm et la défaite de Lévis, et Vaudreuil, etc., qui clôt la guerre de 7 ans aussi. En Europe, ben la France ne conserve que des îles, hein, quelques îles. Vous savez que Saint-Pierre-et-Miquelon est toujours demeuré français. Et Dans cette épopée du Nouveau Monde, les Jésuites ont joué un rôle de premier plan depuis leur arrivée au Canada en 1611. Oui, les Jésuites sont arrivés très tôt, 1611, tout de suite après la fondation de Québec et auparavant la fondation de Port-Royal, en Acadie. Jusqu'à l'abandon de leur mission, là, après la défaite des plaines d'Abraham, bien, il y a un arrêt d'expulsion des Jésuites. Les Anglais chassent les Jésuites en 1762. Rien d'étonnant cela, hein? Chaque fois qu'une entreprise coloniale se prépare, on pose comme condition absolument indispensable au tout début là, la présence de missionnaires chrétiens. Les missionnaires chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont chargés à la fois de la conduite spirituelle des Européens qui viennent, parce que souvent parmi eux, il y a des mécréants, puis il faut les convertir, puis les autres, ben, il faut les maintenir dans une certaine honnêteté, sinon dans la sainteté. Et puis, il faut s'occuper aussi de l'évangélisation des indigènes. Hein? C'est pour ça que les missionnaires accompagnent ceux qu'on appelle les coloniaux. Plusieurs ordres religieux se sont partagés les terres de mission sans toujours éviter des frictions puis des conflits. C'est un peu triste dans un sens, mais c'est compréhensible. Il fallait pas empiéter sur les territoires les uns des autres parce qu'ils avaient pas toujours la même spiritualité, la même façon de voir les choses. Alors ce sont les dominicains, les franciscains, le capucin, récollets, les prêtres des missions étrangères de Paris. On les appelait comme ça, mais ils venaient de différentes régions de France. Parce qu'ils avaient leur séminaire rue du Bac, où il est toujours, d'ailleurs. À visiter si vous allez à Paris, près de la chapelle de la médaille miraculeuse. Et, naturellement, ben, il y avait les jésuites qui, fidèles à l'exemple de Saint-François-Xavier, l'apôtre des Indes, vont fonder des établissements dans le monde entier. Les jésuites s'estiment, bien raisonnablement, je crois, supérieurs à leurs concurrents par quoi? Par la spécificité de leur méthode. Ils se targuent bien facilement et sans méchanceté là, de trois qualités que personne ne leur conteste. D'ailleurs, les autres communautés ne le contestent pas. Et pourtant, ils manquent pas d'ennemis, les pauvres jésuites. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ces trois qualités? C'est l'intrépidité, le goût de l'aventure, puis la valeur intellectuelle. Hein? Alors, du courage, il en fallait, comme le père Marais, dont il va être question tout à l'heure, dans quelques instants. Il en fallait pour créer puis animer une mission dans un pays inconnu et hostile. Il fallait braver le manque de nourriture ou une nourriture infâme. Il fallait braver la maladie aussi. Et le père Marais va mourir d'une maladie comme ça en dedans d'une semaine, chez les Illinois, en 1714. Puis il fallait faire face aussi à des guerriers féroces qui pouvaient aller jusqu'à les dévorer. On vénère, d'ailleurs, ces jours-ci, la mémoire des saints martyrs canadiens. Hein? C'est le 350e anniversaire, ces jours-ci, des pères Jogues, Brébeuf, Lallemand, qui ont péri au 17e siècle de la main des Iroquois. Alors, le goût de l'aventure, et je dis, oui, cette formule peut paraître choquante, mais chez ceux qui partent, ce sont des jeunes, en fait, on devine, à côté de l'ambition conquérante de quelqu'un qui se veut apôtre, à l'exemple de saint Paul, quoi, depuis 2000 ans, quoi, ou à cette époque-là, moins que 2000 ans, évidemment, eh bien, il y a la tentation de mener la vie indépendante du coureur des bois, sans les pratiques malheureuses de bien des coureurs des bois, qui vivaient une vie très relâchée. C'est à eux que nous devons une bonne partie des découvertes françaises en Amérique. Oui, l'expédition la plus célèbre reste la descente du Mississippi en 1673 par le père Marquette et Joliette, anciens élèves des Jésuites d'ailleurs. Ils ont fait progresser la connaissance du continent. Ils ont complété et corrigé sans cesse les travaux des cartographes, comme Bressani, qui était un grand cartographe dont je vous ai parlé. Mais ces aventuriers, si on peut dire, se recommandaient surtout par leur formation intellectuelle, ces Jésuites-là. C'est des hommes admirables. Pour ça que je vous en parle, avec assez d'ardeur ce mois-ci, parce que c'est le 350e anniversaire des saints martyrs canadiens. Les biographies comportent toujours une espèce de plan semblable, hein, après un long noviciat qui est axé sur des études approfondies de philosophie et de théologie. C'est suivi plusieurs années d'enseignement dans un collège de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, et c'est à 30 ou même parfois 35 ans l'embarquement pour le Nouveau Monde. Physiquement, moralement, ces jésuites-là sont équipés pour affronter l'aventure, mais De plus, ils ont une formation qu'on pourrait appeler humaniste, c'est-à-dire les études classiques, comme on disait il n'y a pas longtemps. Des études sérieuses, on apprend le grec, le latin et même l'hébreu, etc. Ça leur permet de raconter leurs expériences dans un français exquis, dans un style clair et élégant, selon les prescriptions d'Ignace de Loyola, d'ailleurs. Tout religieux doit adresser régulièrement ses supérieurs un compte-rendu minutieux de ses activités. Alors que c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec les relations des jésuites, on dispose, grâce à eux, d'une mine de documents irremplaçables pour la reconstitution intégrale de tout ce passé qu'on pourrait appeler américain. Et il va être question aujourd'hui donc de Pierre-Gabriel Marais, jésuite, missionnaire, né le 14 octobre 1662, mort à Kaskaskia, en Illinois, mais c'est en Nouvelle-France à l'époque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1714. Il est entré au noviciat des Jésuites à Paris même en octobre 1681. Encore jeune, lui aussi, à 19 ans, il est prêt à se donner. Et durant les 6 années suivantes, il va enseigner à Vannes, en Bretagne. Après quelques années additionnelles d'études à Bourges et à Paris, on le nomme au Canada en 1694 à 31 ans. Et je vais vous raconter ce qui va se passer au Canada avec Pierre le moine d'Iberville. C'est fantastique et passionnant, vous allez voir. Alors, le père Marais, donc après quelques années d'études à Bourges, là et à Paris, on le nomme au Canada en 1694 à 31 ans, il vient de débarquer donc au Canada, il brûle en bon missionnaire là, du désir d'évangéliser les Amérindiens. Il a un amour naturel pour eux. Mais ses supérieurs ont d'autres priorités. Ils l'ont désigné, eux, comme aumônier, d'abord de l'expédition, puis ensuite d'un fort, quand il aura été réoccupé dans la baie du Thon, dans le froid. Et il va être projeté au cœur d'un conflit militaire, et je dirais même diplomatique. Il va être obligé d'affronter non pas les indigènes, mais, comme il dit lui-même, les hérétiques, c'est-à-dire les protestants. C'est une perspective peu exaltante pour lui. Il dit à son supérieur en lui écrivant « Je ne vous dissimulerai pas que ce fut contre mon inclination ». Mon dessein, en partant de France, était de me consacrer le plus tôt que je pourrais au service des sauvages. Et je m'en voyais par là un peu éloigné. Alors, il a conscience de jouer un rôle suspect, de servir les intérêts temporels. Et cela ne l'empêche pas quand même de remplir scrupuleusement les devoirs de sa charge de prêtre et de missionnaire et de saluer les succès français aussi comme des victoires de Dieu. Mélange de patriotisme français et d'idéal missionnaire exceptionnel, vous allez voir, il devient un très grand missionnaire. Donc, il y a une expédition qui a pour mission d'arracher la baie du Thon à l'emprise anglaise. Ça s'organise sous le commandement de Pierre le moine d'Iberville, et on y affecte Marais en qualité d'aumônier. « Contre mon inclination, dit-il. Il veut vraiment œuvrer chez les Amérindiens, et l'expédition quitte Québec le 10 août, 1694, à bord de 2 frégates, l'un a un nom un peu surprenant, l'une a un nom un peu particulier, le Poli, P-O-L-I, et l'autre, la Salamandre. Le père Marais, que sa nouvelle expérience intéresse vivement, rédige au jour le jour une relation du voyage. Voyez-vous, les jésuites, ils écrivent. Et ils ont été des historiens extraordinaires dans un sens. Et vers la fin du mois d'août, là, les vaisseaux atteignent le détroit qui mène à la baie du Thon. Puis le 24 septembre, ils entrent dans la rivière Bourbon, qui est devenue la rivière Nelson. Hein? Des beaux noms français, Bourbon, la famille des Bourbons, la famille régnante en France, avait donné son nom à ça, et c'est Nelson maintenant. La rivière Sainte-Thérèse, qui est devenue la rivière Hayes, Sainte-Thérèse, c'était pour Sainte-Thérèse d'Avila, évidemment, se déverse aussi dans la baie du Thon à cet endroit, et c'est sur la rive de cette rivière que les Anglais ont érigé le fameux fort York, que le moine d'Iberville veut prendre. La frégate Le Poli mouille dans la rivière Bourbon. La Salamandre, sous le commandement d'Iberville, mouille dans la rivière Sainte-Thérèse. « Où je le suivis, » écrit le père Marais. Et il ajoute, notre vaisseau pense à périr avant de finalement réussir à ancrer. Iberville presse Marais, qui est fiévreux, de descendre à terre, mais ce jésuite prêtre consciencieux refuse de quitter le navire en péril. Et là, les préparatifs du siège progressent et Marais assume sa part des travaux. C'est des travaux bien étrangers à son ministère sacerdotal, à sa préparation intellectuelle. Il aide, par exemple, à la construction des cabanes puis au déchargement des navires. Le 13 octobre, les Français sont prêts à bombarder le Fort York. Ils somment les Anglais de se rendre. Écoutez bien comment ça va se passer, c'est très spécial. On n'a pas idée de ça aujourd'hui. Ils somment les Anglais de se rendre et le lendemain matin, les Anglais assiégés... ont à leur tête Thomas Walsh, le lieutenant Philip Parsons, puis Henry Kelsey, qui soumettent, eux, leurs conditions. Et ces conditions, écoutez bien, sont rédigées en latin par le pasteur ou le prêtre anglican Thomas Anderson. Le père Gabriel Marais traduit pour ses compatriotes francophones, les Français, les Canadiens, les termes de la capitulation. Et les Français prennent officiellement possession du fort, qu'ils rebaptisent le fort Bourbon, toujours en l'honneur de la famille royale de France et Bourbon. Le père Marais relate, il dit, « J'y dis la messe dans le fort, des Anglais, et nous y chantâmes le Te Deum, hein, cette acclamation à Dieu. Et nous admirâmes la disposition merveilleuse de la providence divine. » Et tout au long de l'hiver, qui est pénible, dans ce grand nord, hein, la baie d'Hudson, c'est terrible, le père Marais continue d'exercer son ministère, mais le scorbut, une maladie abominable, je ne vous décris pas ce qui se passe quand les Français attrapent le scorbut, c'est terrible, leur corps se désagrège, ça éclate parmi l'équipage, et même le père Marais n'y échappe pas. Et jusque-là, les occasions pour lui d'apprendre la langue des Indiens ont été plutôt rares et intermittentes. Heureusement, il y a un monsieur de la Motte, Nicolas de la Motte, qui lui a enseigné un bon nombre de mots, mais surtout un Anglais, probablement Henry Kelsey, que j'ai mentionné, qui sait fort bien la langue, m'en a donné bien davantage. Alors, c'est curieux, ces Anglais conquis sont gentils avec le jésuite, hein? Que les gens savaient vivre finalement dans ce temps-là, dans un certain sens. Hein? Alors, très minutieusement, le père Marais compose un dictionnaire de tous ces mots. Quand on dit que les missionnaires ont enlevé aux Amérindiens leur culture, il y a tout de même un bout. Hein? Il compose un dictionnaire de tous ces mots, et selon notre alphabet, comme il dit, et il traduit dans la langue indienne le signe de la croix, le pater, le je vous salue Marie, le credo et les 10 commandements. Quant à d'Iberville, lui... Il retourne en France au cours de l'été de 1695 avec les Anglais qu'il a fait prisonnier. Le père Marais préfère rester, lui, derrière, afin d'occuper dans le fort, s'occuper des quelques 80 hommes laissés en garnison dans ce fameux fort York. Mais les navires, écoutez bien, de la Hudson's Bay Company, vous savez, c'est le magasin La Baie, se prétend héritier de la Hudson's Bay Company, la compagnie de la baie d'Hudson. Alors, les navires de la Hudson's Bay Company reprennent le fort en septembre 1696 et le père Marais est amené en Angleterre où on le garde prisonnier pendant quelques mois. Il est intrépide comme le sont les jésuites à l'époque, hein, et peut-être aujourd'hui encore, j'espère, et il retourne au Canada probablement au début de 1697 pour enfin voir se réaliser le rêve de sa vie, et on l'assigne à la mission de l'Immaculée Conception au pays des Illinois en 1698, et il y mourra en 1714. Dès le début, le père Marais fait preuve des talents du monde extraordinaires pour ses missions, et il apprend en peu de mois le dialecte de ses tribus, plusieurs tribus que je vous nomme pas, c'est trop compliqué. Et son collègue, le père Julien Binto, trouve le père Marais, écoutez bien, d'une fatigue incroyable, incroyable, mais il avait le sentiment, ce bon père, que le cher père Marais se livre un peu trop à son zèle. Il s'alimente d'un peu de maïs bouilli, mêlé de haricots, arrosé d'une boisson de pastèque. Une journée ordinaire de ministère commence par la messe dite avant le lever du soleil. Puis suivent, paraît-il, l'enseignement du catéchisme aux enfants, la visite des malades, la récitation publique des prières et les consultations privées. Et puis, il manipule toujours la plume, hein? Et d'une plume qui n'a rien perdu de sa puissance évocatrice, mais il raconte sa vie remplie de difficultés. Oh, il faut lire ça, c'est passionnant. J'ai lu ça, c'est intéressant, tout ce qu'il décrit de ses tribus. Un bon nombre d'Indiens embrassent notre sainte religion, dit-il, mais son cœur n'est pas moins troublé par le peu d'intérêt que manifestent les jeunes Indiens. Comme quoi, les jeunes, on a de la misère parfois avec les jeunes pour les convaincre. Hein. Et les femmes et les jeunes filles, toutefois, hein, oui, eux sont bien plus disposés à recevoir le baptême. Et les enfants, écrit-il, nous donnent toujours de très belles espérances pour l'avenir quand même. Alors, la jeune communauté se voit aux prises avec plusieurs problèmes, entre autres l'alcool et son cortège de vices. Et les coureurs de bois canadiens débauchent les femmes de la tribu illinoise. C'est terrible, ces coureurs de bois canadiens qui partent de Montréal. Hein? Et de sorte que le père Marais doit faire appel au gouverneur de la Louisiane, Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, le frère de l'autre, qui envoie un sergent et 12 hommes, parmi lesquels se trouve André-Joseph Pinigou, qui a laissé un journal intéressant. Mais lui, de son côté, le père Marais, il rédige à l'intention d'un confrère jésuite, le père Barthélemy Germont, puis je vais vous en lire des passages, un compte rendu détaillé de ses pérégrinations. Il s'attarde à parler de l'isolement du Nouveau Monde, où notre vie, écrit-il, se passe à parcourir d'épaisses forêts, à grimper sur les montagnes, à traverser les régions en canot. Et l'évangélisation des sauvages est très difficile. C'est ce qu'écrit le père Marais. Il écrit qu'ils sont indolents, perfides, changeants, enclins au vol. Mais il reconnaît qu'ils sont pas dépourvus d'une grande intelligence, qu'ils sont naturellement curieux et qu'ils sont capables de tourner une raillerie d'une manière assez ingénieuse. Et presque tous les habitants du village de Kaskia, où ils se trouvent, sont chrétiens, note-t-il. Ils sont convertis et le poste a grandi et plusieurs Français y ont été attirés. Quelques-uns d'entre eux y ont épousé des femmes illinoises. Mais pendant une épidémie, une maladie d'à peine une semaine emporte le pauvre père Gabriel Marais. Le 14 septembre 1714, on le pleure sincèrement. Les Français chantent ses funérailles, son requiem. Tandis que les Amérindiens, dans un geste symbolique de douleur, parce qu'ils l'aimaient beaucoup, offrent des fourrures, ce qu'ils ont de plus précieux. Et l'année suivante, il y a une lettre circulaire du père Jean Mermet qui annonce la mort du père Gabriel Marais. Puis en 1727, donc 13 ans plus tard, le père Jean-Antoine le Boulanger préside à la translation de ses restes dans la belle nouvelle église de Kaskaskia. Et les nombreux écrits qu'il a laissés, mais ça perpétue la mémoire du père Gabriel Marais, et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais je vais vous lire plutôt la lettre adressée au père de Lamberville de la Compagnie. Jésus, procureur de la mission du Canada. Et mon révérend père, la paix de notre Seigneur. Il est un peu tard pour me demander des nouvelles de l'abbé Dutson. J'étais bien plus en état de vous en dire quand j'ai repassé en France en retournant des prisons de Plymouth en Angleterre. Tout ce que je puis faire maintenant, c'est de vous envoyer un extrait du petit journal que j'écrivis en ce temps-là, mais dont j'ai conservé une copie, heureusement. Il commence par notre départ de Québec et finit par le retour des deux vaisseaux, le Polly et la Salamandre, qui nous portèrent à cette baie. Feu M. d'Iberville, qui est né, comme vous savez tous, je l'espère, à Ville-Marie en 1661, à Montréal, donc moins de 20 ans après la fondation de Montréal, et qui est mort à La Havane à 45 ans en 1706. Il était le frère des fameux Lemoine de Bienville que j'ai mentionné tout à l'heure. Et Pierre Lemoine d'Iberville est vraiment l'un des plus grands héros de notre histoire. Alors, il écrit, feu M. d'Iberville, un des plus braves capitaines que nous ayons eu dans la Nouvelle-France, avait ordre de s'emparer de quelques postes que les Anglais occupaient dans la baie d'Hudson. On avait pour cela équipé deux vaisseaux de la guerre, le Poli, qu'il devait monter, et la Salamandre, commandée par Monsieur de Sérigny. Il demanda à notre père supérieur qui put servir d'aumônier aux deux vaisseaux, et le père supérieur jeta les yeux sur moi. Nous nous embarquâmes donc le 10 août 1694, et nous allâmes mouiller vers le minuit, étrange expression, vers le minuit, proche la traverse du Cap Tourmente. C'est à 32 kilomètres de Québec. Nous le doublâmes le 11 sur les 7 à 8 heures du matin. Nous ne fîmes guère de chemin le reste du jour. Alors c'est toujours la complication, manque de vent. C'est la voile. Je profitai de ce loisir pour engager une bonne partie de notre équipage à bien célébrer la fête de la Sainte Vierge. Le 14 août, je distribuai dans le Poli les images de Notre-Dame que m'avait données à Québec Madame de Champigny, intendante du Canada, et je passai tout le soir et le lendemain matin à entendre les confessions. Plusieurs firent leur dévotion le jour de la fête. Comme je finissais la messe, le vent changea et on appareilla aussitôt. On dirait qu'il prie et Dieu envoie le vent. C'est très étrange, vous allez voir. Le 20 août, le vent ayant tout à fait cessé, je passai du Poli à la Salamandre pour voir Monsieur de Sérigny pour dire la messe à son bord. L'équipage en fut fort aise et plusieurs profitèrent de cette occasion pour s'approcher des sacrements. Le lendemain, le 21, nous dépassâmes Belle-Île, cette île qui paraît de figure ronde et par la hauteur de 52 degrés à 220 lieues de Québec, au milieu d'un détroit que forme l'île de Terre-Neuve avec la terre ferme de Labrador. Nous commençâmes dès lors à percevoir de ces grosses montagnes de glace qui flottent dans la mer. Nous en vîmes peut-être une vingtaine. Elles paraissent de loin comme des montagnes de cristal et quelques-unes comme des rochers hérissés de pointes. Alors on passe plusieurs jours comme ça, puis il dit, j'exhortais nos Canadiens à implorer la protection Sainte-Anne qu'on regarde comme la patronne du pays, et que les Canadiens honorent avec beaucoup de piété. Ma proposition fut reçue avec joie, et nous nous engageâmes de faire tous les jours, matin et soir, des prières publiques en l'honneur de la Sainte, Sainte-Anne. Dès la nuit suivante, le vent devint favorable. Voilà, prière, le vent. Cependant, nous commencions à souffrir beaucoup, le froid s'augmentait, et nous manquions d'eau, et dans cette extrémité, nos Canadiens m'avait proposé de faire un vœu à Sainte-Anne et de lui promettre de consacrer en son honneur une partie du premier gain qu'il ferait dans le pays. Et j'approuvai leur dessein, mais après en avoir parlé à M. d'Iberville, alors je les avertis en même temps de travailler à leur sanctification, puisque c'était par la pureté des mœurs qu'on rendait ses vœux agréables à Dieu. La plupart profitèrent de mon avis et s'approchèrent des sacrements, et le lendemain, les matelots voulurent imiter les Canadiens et faire le même vœu qu'eux. M. d'Iberville et les autres officiers se mirent à leur tête. Dès la nuit suivante, qui était celle du 21 au 22 septembre, Dieu nous donna un vent favorable. Le 24, sur les 6 heures du soir, nous entrâmes dans la rivière de Bourbon. La joie fut grande dans tout l'équipage. C'était un vendredi, nous chantâmes l'hymne « Vexilla Regis » et surtout « O crux ave os » Salut aux croix, que nous répétâmes plusieurs fois pour honorer la croix adorable du Sauveur dans un pays où elle est inconnue aux barbares. Les barbares, dans ce temps-là, ça voulait dire les étrangers. Et où elle a été tant de fois profanée par les hérétiques, je regrette le mot, ce sont les protestants, qui y ont abattu avec mépris toutes les croix que nos Français y avaient autrefois élevées. Hein? Les protestants ne toléraient pas les croix, il fallait les jeter par terre. Il faut dire aussi que les croix étaient comme un signe de prise de possession. Le 2 octobre, notre vaisseau pensa périr. Comme nous appareillions dans l'espérance de nous rendre bientôt au port que nous touchions, pour ainsi dire, un gros tourbillon de neige nous cacha la terre et un gros vent de nord-ouest nous jeta sur une batture où nous échouâmes à marée haute. Nous y passâmes une triste nuit et sur les 10 heures du soir, les glaces, emportées par les courants et poussées par les vents, commencèrent à donner contre notre vaisseau avec une violence et un bruit si épouvantable qu'on pouvait l'entendre d'une lieue. Ce fracas dura 4 ou 5 heures. Les glaces heurtaient si rudement le navire qu'elles percèrent le bois et en emportèrent jusqu'à 3 ou 4 doigts en plusieurs endroits. Alors M. d'Iberville, pour décharger le vaisseau, a fait jeter sur la bâture 12 pièces de canon et diverses autres choses qui ne pouvaient pas se perdre dans l'eau ni s'y gâter. Il fit depuis couvrir de sable ces pièces de canon, de peur qu'elles ne fussent entraînées au printemps par le refoulement des glaces. Le 3 octobre, le vent s'étant un peu calmé, M. d'Iberville prit le parti de faire décharger son vaisseau qui était toujours en danger de péril. Nous ne pûmes nous servir pour cela de la chaloupe parce qu'il n'était pas possible de la manier à travers les glaces qui coulaient toujours en grande quantité. Mais nous y employâmes les canots d'écorce que nous avions apportés de Québec et que nos Canadiens conduisaient au travers des glaces avec une adresse admirable. Hein, c'est toujours un sport favori à Québec pour traverser le fleuve, ça, hein, avec des canots. J'étais incommodé depuis quelques jours et j'avais même de la fièvre et M. d'Iberville me pressait d'aller à terre. Je ne pouvais me résoudre à quitter le vaisseau dans le péril où il était et dans l'alarme où je voyais tout l'équipage, et je fus contraint de le faire, mais la triste nouvelle que nous apprîmes bientôt était terrible. Monsieur de Châteauguay, jeune officier de 19 ans et frère de Monsieur d'Iberville, le moine de Châteauguay, quoi, était allé faire le coup de fusil vers le fort des Anglais pour les leurrer, quoi, les amuser, comme on disait dans le temps, et leur ôter la connaissance de notre embarras. Et s'étant trop avancé, Monsieur de Châteauguay fut blessé d'une balle qui le perça de part en part. Il me demandait pour se confesser et je m'y transportai sur le champ et nous crûmes d'abord que la blessure n'était pas mortelle. Et nous fûmes bientôt détrompés car il mourut le lendemain. Un moment auparavant, nous avions appris des nouvelles de la frégate Le Poli et nous avions su que ce vaisseau n'était pas moins en danger que le nôtre. Tant de tristes nouvelles n'abattirent pas le courage de M. d'Iberville. Il était extraordinairement touché de la mort de son frère, qu'il avait toujours aimé tendrement. Il en fit un sacrifice à Dieu, dans lequel il voulait mettre toute sa confiance, prévoyant que le moindre signe d'inquiétude qui paraîtrait sur son visage jetterait tout le monde dans la consternation. M. d'Iberville se soutint toujours avec une fermeté merveilleuse, mettant tout le monde en action. Il agissait lui-même et donnait ses ordres avec autant de présence d'esprit que jamais, et Dieu l'a consolé dès le jour même. Une même marée mit les deux vaisseaux hors de danger et les conduisit chacun dans des endroits qu'on avait marqués. Les bateaux sont sauvés. Le 5 octobre, je baptisai 2 enfants d'un sauvage qui était malade depuis longtemps et que je jugeais en danger. Le 12 octobre, on plaça les mortiers. Le 13, on en était prêt à tirer. On envoya semer les ennemis de se rendre. J'ai raconté ça un peu tout à l'heure, mais voici le récit du père Marais. Pour leur offrir de bonnes conditions, s'ils se rendaient d'abord, les Anglais. Les Anglais demandèrent jusqu'au lendemain matin, 8 heures, pour donner leur réponse et prièrent qu'on ne les indiquât point cette nuit-là auprès du fort. Que l'on ne les inquiétât point, c'est-à-dire. Cela leur fut accordé gentiment, quoi. Et le lendemain, à l'heure marquée, les Anglais apportèrent leurs conditions. On y souscrivit sans peine. Leur ministre avait mis la capitulation en latin et moi, je servis d'interprète de mon côté. La peur les avait saisis dès notre arrivée. Nous admirâmes les dispositions merveilleuses de la divine Providence, ajoute le père Marais. En entrant dans la rivière de Sainte-Thérèse, nous avions invoqué avec confiance la grande sainte dont cette rivière portait le nom, qui s'appelle la rivière Hayes maintenant. Et Dieu arrangea tellement les choses que, justement, le jour de la fête de la même sainte, le 15 octobre, nous entrâmes dans le fort, ce qui nous rendit les maîtres de la navigation et de tout le commerce de cette grande rivière. Bon, j'avais pris le parti de mon arrivée d'apprendre la langue des sauvages. Et pour ce qui est de la religion qu'ils professent, je crois qu'elle est la même que celle des autres sauvages. Je ne saurais encore dire bien précisément en quoi consiste disons leur idolâtrie. J'ai su qu'ils ont des espèces de sacrifices. Ils sont grands jongleurs, grands sorciers. Ils ont, comme les autres, l'usage de la pipe qu'ils appellent le calumet. Ils font fumer le soleil. Ils font aussi fumer des personnes absentes. Ils ont fait fumer notre fort même, notre vaisseau. Étrange. Je ne puis cependant vous dire rien de certain sur les idées qu'ils peuvent avoir de la divinité, n'ayant pu l'approfondir, mais je vous ajouterai seulement qu'ils sont extrêmement superstitieux, malheureusement fort débauchés, qu'ils vivent dans la polygamie et dans un grand éloignement de la religion chrétienne qu'ils ne connaissent pas. Par là, vous voyez, mon révérend père, qu'il sera fort difficile d'établir la religion parmi ces peuples, et je crois que si l'on veut y faire quelques progrès, il faut commencer par les Cris et les Assinibois. Outre que ces sauvages sont en plus grand nombre, il me semble qu'ils ne sont pas si éloignés de la religion. Ils ont plus d'esprit, ils sont moins sédentaires. Pendant 3 ou 4 mois, on peut former plus aisément dans leur pays une mission solide. Ce n'est pas que je ne vois les peines qu'on aurait à y établir. Je ne sais si nos premiers pères en ont eu autant dans leur première mission du Canada que celles-ci en promettent. Mais ce n'est pas là ce qui nous effraie. Car Dieu, j'en suis sûr, prendra soin de nous, et j'espère que plus ces missions seront pénibles, plus il se trouvera de missionnaires qui s'offriront à Dieu pour y être envoyés. Alors le père Gabriel Marais, toujours à la baie d'Hudson, raconte un peu comment l'hiver est, et puis l'été aussi, où il y a beaucoup de moustiques et de maringouins, dit-il. Et, ou des cousins, comme on dit, que des moucherons sont en si grand nombre et plus forts qu'ailleurs. Et mais il parle aussi de l'extraordinaire quantité de perdrix, d'oies, d'outardes, de canards, de bernaches, de caribous, et que finalement, Dieu a soin des sauvages. Pendant que la terre leur est ingrate, dit-il, le Seigneur pourvoit leur nourriture. Et je ne parle pas bien encore la langue des sauvages, et cependant, il n'en est point venu au fort à qui je n'ai parlé de Dieu. J'avais un secret plaisir de l'annoncer à ces pauvres gens qui n'en avaient jamais entendu parler. Plusieurs m'ont écouté volontiers. Ils ont du moins connu que je venais dans un autre but que les autres Français. Je leur ai dit que j'irais dans leur pays pour leur faire connaître, c'est-à-dire dans leur région, hein, pour leur faire connaître le Dieu que j'adorais. Ils en ont été bien aises et m'y ont invité. J'ai encore plus de peine à entendre le sauvage qu'à le parler. Je sais déjà la plus grande partie des mots. Je fais un dictionnaire de tous ces mots. J'ai traduit le signe de la croix, le pater, l'ave, le credo et les commandements de Dieu. J'ai seulement baptisé 2 sauvages adultes. Qui sont morts incontinent après. J'ai baptisé encore 3 enfants, dont 2 sont allés au ciel, et si j'avais pu aller parmi eux, j'y en aurais mis davantage. Nos 2 vaisseaux partirent au commencement de septembre 1695 pour s'en retourner. Comme il y avait de l'apparence qu'ils iraient droit en France, j'aimais mieux rester dans le fort, comme je vous ai raconté, avec les 80 hommes qu'on y laissait en garnison et qui d'ailleurs n'avaient point d'aumônier. Il se sacrifie, comme vous voyez. J'étais persuadé qu'ayant plus de loisirs après le départ des vaisseaux, je pourrais apprendre tout à fait la langue des sauvages et me mettre en état d'y commencer une mission. Dieu ne m'en a pas jugé digne, car les Anglais de la compagnie de la baie d'Hudson nous vinrent assiéger et nous prirent, et je vous l'ai dit en repassant France de vive voix, n'est-ce pas? Tout le détail, avec l'histoire de notre prison à Plymouth, en Angleterre. Il serait inutile de tout répéter cela ici, mon père. C'est le courage de ces gens qui m'étonne toujours, hein? Ce sont des relations officielles, des lettres personnelles. Mais les Jésuites pensent à une pénétration pacifique. Ils se font indiens parmi les Indiens. Ils vivent dans les longues huttes enfumées, ils sont obligés de se coucher par terre pour pouvoir respirer. La marche sur des raquettes dans le Grand Nord est terrible. La navigation en canot d'écorce, dangereuse. Ils ont une alimentation à base de viande boucanée, puis de maïs grillé, arrosé, il est vrai, de sirop d'érable. Ça ne va pas sans quelques haut-le-cœurs. Ils se plaignent parfois, mais ils répriment rapidement leurs plaintes, ces hommes héroïques. car il y a des odeurs fétides. Il y a la fumée du tabac, car les Amérindiens fument beaucoup. La promiscuité aussi. Parfois, les Amérindiens font l'amour n'importe comment, tout près d'eux. Les piqûres d'insectes. Et surtout, l'angoisse qui étreint le missionnaire. Il ne sait jamais s'il va être assassiné. Et surtout, ils sont isolés. Ils sont déracinés. Et la diversité des peuples, les modes, les langues, tout ça. On peut considérer les jésuites aussi comme les premiers ethnologues. Ils sont excellents linguistes. Ils prennent soin, en débarquant, de s'initier à une ou plusieurs langues indigènes. Les plus doués rédigent des dictionnaires, des grammaires. Leurs récits sont émaillés de termes pittoresques. Et ça enrichit notre vocabulaire, comme la pagaille, le hamac, le manitou. Ça vient d'eux, ça. Et dans ces conditions, le dialogue a pu s'instaurer entre, on pourrait dire, l'Européen et le sauvage ou l'homme des bois, si vous voulez. Un dialogue qui n'a pas toujours tourné l'avantage des gens prétendument civilisés. Car parmi nous, il y avait des gens pleins de cupidité et d'ivrognerie, de lubricité. C'était triste. Et dans les descriptions que nous font des Amérindiens, des Jésuites, on sent souvent leur amour. Et on peut dire que Rousseau a pu tirer à la lecture des lettres édifiantes son mythe du bon sauvage. Pourtant, y regarder de près, on constate que dans cette littérature, le réalisme l'emporte finalement sur les belles vies de saints un peu mielleuses. Et quoi qu'on en pense, y a un souci d'édification, mais tempéré. C'est un message difficile à faire passer que leur message. Ils sont dans un cadre politique et économique, évidemment. Mais le message a été bien reçu. Et c'est Voltaire qui leur a apporté un grand témoignage en disant que les Jésuites ont donné un nouveau spectacle au monde en assurant à quelques égards le triomphe de l'humanité. Voltaire. Si vous voulez avoir ce livre, c'est « Peau rouge et robe noire », lettre édifiante et curieuse des Jésuites français en Amérique au 18e siècle, « Peau rouge et robe noire » aux éditions de La Différence, paru en 1993.